Et notre invité aujourd'hui, Jean-Yves Roux, sénateur des Alpes de Haute-Provence. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes reparti dans la course au sénatorial dans le département. Qu'est-ce qui vous a décidé ?
Ben écoutez, c'est un engagement. Ce qui m'a décidé, c'est une volonté de continuer le travail que j'ai réalisé depuis 6 ans en tant que sénateur pour défendre la ruralité et la montagne dans notre beau département au niveau national.
Aujourd'hui, on vous situe comment au niveau de l'échiquier politique ? Vous faites partie du groupe RDSE au sein du Parlement. Selon Jean-Jacques Lachan, le maire de Nîmes, président de l'Association des maires ruraux dans les Alpes-de-Haute-Provence, est également candidat face à vous. Vous êtes quand même un soutien de La République En Marche, notamment par votre fonction au sein du département des Alpes-de-Provence. Voilà, Jean-Yves Roux, aujourd'hui, vous en êtes où ?
Alors, ma fonction, je ne suis plus au groupe La République En Marche au conseil départemental.
Vous avez ouvert votre propre groupe.
J'ai créé mon propre groupe, donc je ne suis pas dans La République En Marche. Par contre, aujourd'hui, dans cette élection, j'ai le soutien du Parti radical de gauche, qui aujourd'hui m'a adressé un courrier m'indiquant qu'il me soutenait à cette élection sénatoriale. Le Parti socialiste départemental, aujourd'hui, ne se prononce pas sur le vote. Donc, quand j'entends M. Lachan qui dit qu'il est soutenu par des partis de gauche, ça fait déjà 2 partis. Et Génération S, j'aurais bien voulu savoir vraiment les représentants au sein de notre département pour qu'ils puissent venir me rencontrer, pour qu'on puisse discuter aussi de cette position de gauche que j'ai, parce que je trouve un peu aberrant qu'on puisse mettre des partis sur une réflexion qui est on rassemble la gauche et qu'on voit que la gauche n'est pas rassemblée autour d'une seule personne. Donc pour moi, je serais le candidat d'hiver gauche. Mais aussi, j'ai la grande chance d'avoir un soutien qui est Daniel Sagnou, le président de l'association des maires du 04, qui me soutient par rapport au travail que nous avons fait tous les deux à défendre le territoire des Alpes-de-Provence. Lui, il avait fait auparavant en tant que député et il me dit « tu es mon digne successeur à travers ce que tu fais sur Paris ». Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et que je pense qu'aujourd'hui, notre travail que nous faisons tous les deux, avec bien sûr une partie de l'Association des maires ruraux de France, parce que les 3/4 des membres du bureau, dont M. Lachan est président, dont M. Chabot qui est son premier vice-président, ou Mme Cossera, ou M. Jacobi, me soutiennent à travers les maires ruraux dans cette campagne électorale que nous faisons à travers les sénatoriales. Et ça, c'est quelque chose qui est très important.
Candidat
et puis vous dire
gauche...
au niveau du conseil départemental, quand même, le président du groupe de la majorité, qui est président de la DLVA, qui est vice-président du conseil départemental, Jean-Christophe Pessini, me soutient aussi dans cette démarche. Donc quand on parle du rassemblement de la gauche que M. Lachan fait, vous voyez, aujourd'hui, il ne rassemble pas tous les partis de gauche et il ne rassemble pas tous les présidents, toute l'association des maires ruraux de notre département.
Vous le dites, je suis candidat d'hiver gauche et j'ai en soutien Daniel Spagnou qui m'estime comme son successeur, donc successeur d'un élu de droite.
D'un élu de droite, mais aujourd'hui, Daniel Spagnou n'est plus Les Républicains.
Mais il a été élu de droite.
Ah, il a été élu de droite, mais moi j'ai été élu socialiste. Et je suis d'hiver gauche.
Alors, parlons du projet de loi 3D, le projet de loi sur la différenciation, la décentralisation et la déconcentration. Est-ce que c'est une chance pour les territoires ruraux demain ?
Oui, c'est une chance pour les territoires ruraux demain. Demain, nous allons pouvoir parler de cette loi au niveau du Sénat et je pense que c'est quelque chose qui pourra faire ressortir les territoires ruraux et pourquoi pas avoir une différenciation entre l'urbain et le rural à travers une loi, à travers cette proposition de loi. Moi, j'y crois grandement parce que je pense que après avoir modifié un peu la loi NOTRe à travers la loi engagement et proximité, aujourd'hui, nous voyons que cette loi avec un droit à la différenciation peut être très important pour nos territoires ruraux et je pense qu'il faut absolument que nous, les parlementaires, nous prenons vraiment le cœur de cette loi pour qu'on puisse essayer de faire avancer nos territoires ruraux et défendre encore plus la ruralité et la montagne comme nous l'avons fait auparavant. Nous avons l'occasion de le faire à travers cette loi. Il faut continuer. Et vous l'avez vu, que ce soit à travers Renaud Muselier qui veut aussi essayer, lui, à ce qu'on puisse aider les collectivités territoriales comme François Barin, mais aussi concernant les associations départementales de France, on puisse arriver à ce que la ruralité, vraiment, on ait une différenciation qui soit faite avec l'urbain et pourquoi pas des aides supplémentaires comme je l'avais proposé dans l'acte 2 de la loi Montagne avec Joël Giraud.
C'est ce qu'appelle de ses voeux Jean-Jacques Lachan, que les richesses et les plus-values environnementales de nos territoires soient prises en compte désormais, notamment dans les calculs des dotations. C'est ça ce droit à la différenciation ?
C'est ceci, ce droit à la différenciation, c'est-à-dire une péréquation qui soit horizontale et qui nous permette d'avoir, par rapport aux départements ou aux communes les plus riches, avoir une réflexion pour accompagner les communes les plus pauvres. Aujourd'hui, ça se fait à travers les conseillers départementaux. Il y a une péréquation, le département des Alpes-de-Provence en fin d'année, a touché 6 millions d'euros. C'est la première fois. Et donc, on a récupéré 6 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'on a enlevé 6 millions d'euros dans des gros départements. Et les Alpes-Maritimes, pour vous les citer, ils ont perdu 6 millions d'euros. Et nous, nous avons gagné 6 millions d'euros. C'est comme ça qu'on doit aussi faire la même chose, que ce soit pour les territoires, mais surtout pour les collectivités rurales de notre département.
Est-ce que vous iriez à dire que Jean Castex, c'est le Premier ministre de la ruralité, puisque dès son arrivée, il a mis en place le secrétariat d'État à la ruralité avec Joël Giraud ?
Écoutez, c'était une demande forte que je faisais chaque fois que j'intervenais au niveau du Sénat, avoir un secrétaire d'État à la ruralité pour qu'il prenne conscience. Je suis très heureux que ce soit Joël Giraud, parce que je le connais très bien, nous avons siégé à la région ensemble, en tant que vice-président, lui s'occupait de la montagne et tout ce qui était le contrat massif alpin. Moi j'étais au titre de l'aménagement du territoire, nous avons beaucoup œuvré pour la région et nous avons toujours été solidaires envers nos deux départements alpins, et j'espère que c'est la personne qu'il faut pour défendre la ruralité à Paris.
Quand Jean Castex estime qu'il faut réarmer les zones rurales, ça doit passer par quoi en priorité ?
Il faut réarmer les zones rurales, c'est déjà par rapport à la technicité. Il faut absolument qu'on ait des personnels qui soient de l'État, qui viennent dans notre département. Il faut absolument que l'Agence nationale des cohésions des territoires, qui a été proposée par mon groupe politique, le RDSE, puisse être mis en place dans notre territoire pour accompagner les communes à ce qu'elles puissent avoir une ingénierie qui dépende des services de cette Agence nationale des cohésions des territoires, bien sûr, mais aussi avec du financement. Je pense que ce que dit le Premier ministre, il a dit de bonnes paroles le jour où il a pris son poste. Maintenant, j'attends de voir des actes sur le département et sur le territoire des territoires ruraux.
Alors, cette fameuse agence dont vous parlez, l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui a été mise en place depuis janvier 2020, est-ce que ça va être une nouvelle agence qui va créer de la bureaucratie, ou est-ce que vraiment ça va être un mouvement salvateur et un pilier pour la ruralité ?
Écoutez, aujourd'hui, par rapport à ce qui avait été prévu, moi j'ai demandé à ce que ça soit un pilier pour la ruralité, mais que ça soit aussi quelque chose qui soit une ingénierie pour accompagner les communes rurales qui n'ont pas la technicité, ou par manque de personnel, ou par rapport à des réflexions qui n'ont que, en fait, ils ont qu'un dossier peut-être pas rare à déposer au niveau des communes par rapport à des subventions qu'ils demandent au niveau des services de l'État. Il faut que l'ingénierie soit dans cette agence et qui accompagne absolument les communes, mais aussi financièrement. Il faut qu'on puisse les aider à monter des dossiers. Quand vous voyez qu'à travers les fonds européens, j'ai eu une mission sur les fonds européens dans le cadre du programme LEADER, qu'aujourd'hui, dans la période 2016-2021, nous avons 700 millions d'euros au niveau national et nous avons au 31 décembre 2018 que 6% du crédit de consommation. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas l'ingénierie suffisante pour monter des dossiers qui sont très complexes au niveau de la ruralité et au niveau des maires de notre département. Il faut absolument les accompagner, les aider à avoir plus de fonds européens.
Avec Ronan Dantec, vous avez rédigé un rapport sur l'adaptation de la France au dérèglement climatique à l'horizon 2050. Dans ce rapport, vous soulignez qu'il faut favoriser les modes de construction qui permettront, et je vous cite, de tenir face à des périodes de canicule répétées, mais aussi, dans la mesure du possible, à des crues et des précipitations destructrices. Le plan de relance et les accents qui sont faits sur l'écologie, est-ce que c'est une chance à saisir pour le BTP ?
Oui, je pense que c'est une chance à saisir pour le BTP, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut attendre de savoir vraiment les critères qui vont être établis, parce que ce sont les annonces concernant la transition écologique, énergétique. Il faut savoir comment les communes vont pouvoir déposer des dossiers, ou les conseillers régionaux, ou les conseillers départementaux puissent prendre et défendre, je veux dire, ces projets. Il faut absolument qu'on sache exactement, parce que ce sont les annonces avec des chiffres que nous avons, mais nous n'avons pas les critères. Il faudrait avoir les critères pour qu'on puisse aider les communes à déposer les dossiers. Mais moi, je pense que c'est une chance par rapport à ce rapport. Vous l'avez vu, nous avons fait un rapport qui nous a duré pendant 6 mois de travail, où nous avons décliné 18 propositions. Aujourd'hui, ces propositions sont que autant bien agricoles que à travers, je veux dire, le BTP. Je pense que c'est une chance à saisir. Nous avons voulu anticiper ce qui risque d'arriver en 2050, c'est-à-dire une augmentation des pics de chaleur de 2%, voire entre 5 et 7 degrés, pardon, 2 degrés, entre 5 et 7 degrés. D'ici 2050, il faut se prévenir, il faut surtout anticiper.
Merci beaucoup Jean-Yves d'avoir été à nos côtés ce matin dans le 8:30. Je rappelle que vous êtes le sénateur des Alpes-de-Haute-Provence et candidat à votre propre succession. Merci beaucoup.
Merci.